Roi Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à tous et à tout le monde. Aujourd'hui, édition du vendredi 25 août 2017, en direct de Washington, Idrissa Sedoulia et Arnold Butson pour commencer les titres.
Le Qatar ferme l'ambassade du Tchad à Doha en réaction à une décision similaire de N'Djamena contre l'Émirat.
Au Niger, au moins 540 civils tués, enlevés ou blessés dans des attaques de Boko Haram depuis février 2015 dans la région de Diffa.
Les Burundais continuent de fuir leur pays en raison des exactions de la Ligue des jeunes du parti au pouvoir, selon l'ONU.
En Angola, le MPLA au pouvoir a remporté largement et sans surprise les élections disputées mercredi.
Au Kenya, guerre ouverte entre le président Uhuru Kenyatta et les parlementaires nouvellement élus qui cherchent à augmenter leur propre salaire.
Nous retrouverons en seconde partie de cette édition Arzuma Compaoré, notre envoyé spécial dans le sud-ouest des États-Unis, pour la suite de notre série sur les Africains qui tentent de rejoindre les États-Unis en passant par la frontière mexicaine.
Et ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco.
Pour l'instant, le journal.
Rien ne va plus entre le Tchad et le Qatar, qui a annoncé la fermeture de l'ambassade tchadienne à Doha. Le Qatar a par ailleurs donné 3 jours au personnel pour quitter le pays. C'est en réponse à une mesure similaire prise par N'Djamena. Le point avec John Lyndon.
Le Tchad a justifié la fermeture de l'ambassade qatari en accusant Doha de déstabilisation à partir de la Libye. Il avait donné 10 jours au personnel pour quitter le territoire tchadien. Un responsable du ministère des Affaires étrangères qatari a qualifié ces accusations d'infondées et a porté la réplique. Le personnel de l'ambassade du Tchad a 3 jours pour quitter le pays. Le Tchad avait rappelé son ambassadeur au Qatar en juin dernier. L'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, Bahreïn, le Yémen et l'Égypte venaient de rompre leurs relations avec Doha, accusant ce petit émirat de soutien au terrorisme et de rapprochement avec Téhéran, grand rival de Riyad. Comme pour envenimer la situation déjà très tendue, le Qatar va rouvrir son ambassade en Iran, un pays soupçonné de soutenir le terrorisme.
Au Niger, au moins 540 civils ont été tués, enlevés ou blessés lors d'attaques attribuées à Boko Haram depuis février 2015 dans la région de Diffa, dans le sud-est proche du Nigeria. C'est ce qui ressort de chiffres publiés jeudi par l'ONU à Niamey. Les attaques les plus meurtrières ont été répertoriées dans des villages à la lisière avec le Nigeria et dans des localités riveraines du lac Tchad, à cheval entre le Niger, le Tchad et le Nigeria, selon les autorités de Diffa. Ainsi, 70% des morts sont concentrés dans le département de Bosso, relève le Bureau de coordination des affaires humanitaires de l'ONU, l'OCHA.
Au Nigeria même, 5 personnes ont été tuées dans une embuscade tendue par Boko Haram dans le nord-est du pays, quelques jours après des attentats suicides dans les environs qui avaient fait 28 morts selon des sources locales. Un convoi de camions sous une escorte militaire et de milices civiles en lutte contre Boko Haram a été attaqué au niveau du village de Meleri dans le district de Konduga, ciblé à de nombreuses reprises ces dernières semaines. Cette attaque a eu lieu à moins de 30 kilomètres de Maïdougouri, la capitale de l'État de Borno.
Les Burundais continuent de fuir leur pays en raison des exactions de la Ligue des jeunes du parti au pouvoir. C'est ce qui ressort d'un rapport de l'ONU. Yakuba Ouedraogo.
Selon le rapport de l'Initiative internationale pour les droits des réfugiés, les meurtres et les disparitions forcées continuent à être perpétrés par la Ligue des jeunes du parti au pouvoir. L'ONU qualifie cette ligue de milice, même si Bujumbura ne l'entend pas de cette oreille, et demande aux réfugiés de regagner la patrie, estimant que la paix et la sécurité ont été retrouvées. Le rapport montre que le nombre de nouveaux réfugiés dans les pays voisins dépasse celui des Burundais qui sont revenus dans leur pays. Les violences ont déjà fait 2000 morts selon l'ONU et ont poussé à l'exil plus de 425 000 Burundais, dont 275 000 en Tanzanie. L'ONU a accusé Bujumbura de graves violations des droits de l'homme. Le Burundi traverse une crise depuis le troisième mandat controversé, en avril 2015, du président Pierre Nkurunziza.
En Angola, le MPLA au pouvoir a remporté largement et sans surprise les élections disputées mercredi. Son candidat, Juan Lorenzo, succédera donc à la présidence à José Eduardo dos Santos, qui a régné sans partage pendant 38 ans. À la tête du pays depuis son indépendance du Portugal en 1975, le mouvement populaire pour la libération de l'Angola a recueilli plus de 64% des voix selon des résultats partiels publiés jeudi par la Commission nationale électorale. Ses deux principaux adversaires, l'UNITA et la CASA CE, n'obtiennent respectivement que 24 et 8,5% des voix. L'opposition a immédiatement contesté ces chiffres et la façon dont ils ont été publiés.
Au Kenya, c'est la guerre ouverte entre le président Uhuru Kenyatta et les parlementaires nouvellement élus. Ces députés, parmi les mieux payés au monde, cherchent à augmenter leur salaire. Deux semaines après les élections générales, le chef de l'État kenyan leur demande d'abandonner ce qu'il qualifie de tentative honteuse. Jacques Aristide.
Le président Kenyatta s'est dit profondément perturbé par des élus qui veulent être payés plus que ce que la loi prévoit avant même d'entrer en fonction. Il a promis qu'il ne promulguerait aucune loi sur une augmentation de salaire des parlementaires. Pour diminuer l'énorme masse salariale publique, l'État a décidé en juillet dernier de réduire légèrement les salaires des hauts fonctionnaires, du président aux dirigeants des comtés. Un député kenyan peut toucher jusqu'à 10 000 dollars par mois. Ce qui comprend un salaire fixe et de multiples allocations. Ce montant n'a été réduit que de 850 dollars. Toutefois, certains sont plus que mécontents. Pour la députée Gladys Wang, l'objectif est de dénigrer les députés et les réduire à l'état de mendiants. Une autre députée, Gatoni Wamuchomba, qui avait demandé sur Twitter à être bien payée, a dû faire marche arrière hier après une pétition lancée par des habitants de sa région pour empêcher son investiture. Les députés kenyans avaient déjà irrité la population en 2013 quand leur premier acte était d'augmenter leur salaire, ce qui avait poussé les gens à descendre dans la rue.
La crise migratoire sera au cœur d'une rencontre lundi à Paris entre le président français Emmanuel Macron, certains chefs de gouvernement européens et des dirigeants africains. Des détails avec Eric Manirakiza.
Cette rencontre de haut niveau vise à réaffirmer le soutien de l'Europe au Tchad, au Niger et à la Libye pour le contrôle et la gestion des flux migratoires. D'après l'Élysée, Emmanuel Macron recevra d'abord Idriss Déby Itno et Mahamadou Issoufou. Il s'entretiendra par la suite avec la chancelière Angela Merkel, puis Federica Mogherini, chef de la diplomatie européenne. Suivra enfin une réunion commune avec la participation du Premier ministre italien Paolo Gentiloni, l'Espagnol Mariano Rajoy et le chef du gouvernement d'entente nationale libyen Fayez al-Sarraj. Une conférence de presse conjointe sanctionnera la fin de cette rencontre. Monsieur Macron a déjà pris plusieurs initiatives. Il veut notamment ouvrir des centres d'examen pour les candidats à l'asile au Niger, au Tchad et en Libye pour tenter de juguler les flux de migrants en France.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Officier russe des affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a dit que la nouvelle stratégie du président Donald Trump est essentiellement axée sur le recours à la force militaire. Et pour M. Lavrov, elle est vouée, cette stratégie, à l'échec. En réaction, un haut responsable américain a déclaré que la stratégie annoncée lundi dans un discours par le président Trump comporte plus que des volets militaires et inclut des éléments diplomatiques, politiques et économiques. Le même officiel a également accusé la Russie de recourir à une propagande qui n'aide pas du tout sur le rôle des États-Unis en Afghanistan.
La nature précise de la menace qui a provoqué mercredi l'annulation d'un concert à Rotterdam aux Pays-Bas reste floue, alors que les autorités néerlandaises ont dévoilé les premiers éléments de l'enquête. La police a libéré jeudi le conducteur espagnol d'une camionnette qui contenait des bonbonnes de gaz, un des deux suspects arrêtés après l'annulation du concert, décidé sur la foi d'une information concrète reçue d'Espagne sur un projet d'attentat. En revanche, un jeune néerlandais arrêté dans la nuit de mercredi à jeudi dans le sud des Pays-Bas reste détenu.
Au Venezuela, campagne du président Nicolas Maduro contre les États-Unis. Ceux qui doutent doivent quitter les forces armées immédiatement, a averti hier M. Maduro en mettant en garde contre toute fracture qui profiterait, je cite, à Trump et à l'impérialisme. Selon le dirigeant vénézuélien, Washington préparerait un blocus naval afin d'empêcher les exportations de pétrole dont dépend l'économie du pays. Très critiqué, le président Maduro fait face depuis avril à une violente vague de contestation. Il lui est notamment reproché d'avoir fait élire une assemblée constituante fantoche fin juillet, assemblée constituante qui s'est désormais emparée des pouvoirs législatifs de l'Assemblée nationale, la seule institution du pays contrôlée par l'opposition depuis la fin de 2015.
Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La Minute Éco.
En Algérie, le déficit commercial a reculé de 42% sur les 7 premiers mois de 2017. En 2016, sur la même période, le déficit commercial était de plus de 10 milliards de dollars. Aujourd'hui, il est estimé à environ 6 milliards de dollars. Selon la douane algérienne, ce résultat s'explique par la hausse de 25% des exportations et une très légère baisse des importations. Le principal fournisseur de l'Algérie est la Chine, avec près de 20% des importations du pays, suivi par la France et l'Italie. Au Nigeria, la compagnie d'ingénierie et de construction chinoise a révélé que la ligne de métro d'Abuja sera achevée en décembre 2017. Le coût de cette première phase est estimé à 823 millions de dollars. Cette somme a permis l'installation d'une ligne de 45 km qui relie l'aéroport international au centre d'affaires. L'Angola a choisi la banque russe VTB pour arranger sa nouvelle sortie sur le marché des eurobonds. Cette opération devrait permettre à l'Angola de lever jusqu'à 2 milliards de dollars. La première sortie du pays en 2015 avait rapporté 1,5 milliard de dollars avec l'aide de la banque américaine Goldman Sachs. Cette fois, Luanda a misé sur la Russie qui finance déjà plusieurs projets en Angola.
À présent, les sports avec Nicolas Pineau. Voilà, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Tirage au sort de la Ligue des Champions, deux chocs, Juventus-Real et Bayern-Paris-Saint-Germain.
Il n'y aura pas de groupe de la mort cette saison en Ligue des Champions. Le Real Madrid, double tenant du titre, affrontera le Borussia Dortmund dans le groupe H, ainsi que Tottenham et l'APOEL Nicosie. À noter dans les autres groupes, le groupe A, Manchester United face au FC Bâle, au CSKA Moscou et à Benfica, la belle affiche dans le groupe B entre le Paris Saint-Germain de Neymar et le Bayern Munich. À noter également la présence d'Anderlecht et du Celtic Glasgow. Dans le groupe C, le choc entre Chelsea et l'Atlético Madrid, l'AS Rome à surveiller et le petit poussé Karabag. Dans le groupe D, le choc Juventus-Turin, Barcelone. À noter aussi la présence de l'Olympiakos et du Sporting Portugal. Dans le groupe E, c'est plus facile pour Séville et Liverpool face au Spartak Moscou et Maribor. Et puis le groupe F, le Shakhtar Donetsk avec Manchester City, Naples et Feyenoord. Enfin le groupe G, Monaco, Porto, Besiktas et Leipzig.
Et l'info transfert d'hier, Ousmane Dembélé file au Barça.
Le FC Barcelone aurait finalement trouvé un accord pour acquérir l'attaquant français Ousmane Dembélé, selon le journal L'Équipe. Le transfuge du Borussia Dortmund pourrait, grâce à cet accord, devenir le deuxième joueur le plus cher du monde derrière le Brésilien Neymar, parti, vous le savez, au Paris Saint-Germain. Finalement, les deux clubs auraient, selon le journal français, convenu de 145 millions d'euros.
Afro-basket dames place au quart de finale.
Qui se joueront tout à l'heure, puisque c'était journée de repos hier. Présentation des quarts de finale avec sur place Amdinsi pour VOA Afrique.
Les choses sérieuses commencent ce vendredi avec le démarrage de la seconde phase de l'afro-basket féminin. En effet, les furies de la balle au panier auront droit à des quarts de finale équilibrés. L'Angola, leader invaincu de la poule A, fera face au Mozambique, tandis que le Mali, pays organisateur, qui a terminé à la deuxième place de cette poule A, ira à l'assaut de l'Égypte. Le Nigeria, qui a fait chuter le champion en titre, va croiser la Côte d'Ivoire alors que le Sénégal retrouve le Cameroun. Une équipe qu'il avait battue lors de la finale de la dernière édition à Yaoundé. Retenez que parmi les 8 formations qui ont décroché leur qualification pour ces quarts de finale, seules 2 équipes n'ont pas encore concédé de défaite. Il s'agit du Nigeria et de l'Angola qui ont réalisé un parcours sans faute. Bamako, Amédine Si, VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sédoulia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Dans quelques jours, c'est la fête musulmane du Tabaski au cours de laquelle les fidèles ayant les moyens immolent un bélier. Un bélier qui n'est toujours pas accessible pour les petites bourses du fait de sa cherté, par exemple au Niger, où notre correspondant Abdelrazak Idrissa s'est rendu dans un des marchés de bétail de la capitale Niamey.
À Tourakou, le principal marché de bétail de Niamey, c'est Hassan Diori, secrétaire général du comité de gestion du dit marché qui nous accueille.
Cette année, vraiment, il y a assez d'animaux par rapport à l'année passée.
Des produits donc disponibles, mais une rareté des clients. Issaka est un revendeur, il est là depuis 4 jours et ses 9 béliers avec leur bon embonpoint n'ont toujours pas eu de preneur. Le responsable du comité de gestion du marché tente de le rassurer.
Mais il reste quelques jours. Tu sais, les Nigériens, comme d'habitude, attendent le salaire. Certains aussi craignent le vol des animaux. S'ils payent les animaux très tôt, les animaux seront volés. Il y a toutes les catégories de prix. Quand vous tournez le marché actuellement, vous pouvez trouver un mouton de 90 000, 100 000, 110 000, jusqu'à 200 000.
Le prix plancher semble donc être 90 000 francs CFA. Mahaman Lawali est venu avec moins que cela. Il a vainement fait le tour de presque tous les revendeurs.
Un petit mouton, oui, plus de 95 000, 85 000. Ou bien 5 000 même. C'est trop cher vraiment. L'année passée là, bon, c'est pas comme cette année là. L'année passée là, vraiment, c'est un peu, il y a un peu mouvement, mais maintenant c'est trop dur. C'est trop dur, il n'y a pas l'argent.
Même ceux qui semblent avoir une bourse un peu plus élevée que celle de la Wali reconnaissent une certaine chèreté des prix cette année. Abdou Hassan a difficilement pu s'acheter 3 béliers.
On a acheté presque 280 000, les trois. En N1 qu'on a payé ça. Ça là, on a acheté ça 100 000 et ça encore, c'est après 103 000. Ça, ça coûte 72 000. Ouais, c'est cher.
Les prix vont certainement encore monter en flèche, surtout lorsque les fonctionnaires percevront les salaires de fin de mois. Autant dire que beaucoup de fidèles musulmans ne pourront pas effectuer cette année ce sacrifice dans un pays qui a pourtant un important cheptel. Abdullah Razak Idrissa à Niamey pour VOA Afrique.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, à Niamey au Niger, sur le 102.5 FM, 24h sur 24.
En République démocratique du Congo, la ville de Lubumbashi fait face depuis plusieurs semaines à une insécurité grandissante et ce de manière inexpliquée. Pour juguler cette situation, les autorités ont annoncé la mise en place de l'opération Kibunu, avec des patrouilles mixtes composées d'éléments de la police, des régiments FARDC et de la garde républicaine de Lubumbashi, Narval Nabila.
C'est depuis plusieurs semaines que le Lushua crie à l'insécurité qui sème la terreur et la désolation dans plusieurs familles. Vols, viols, assassinats. Ici, certains Lushua rencontrés au centre-ville témoignent sous anonymat pour raison de sécurité.
La sécurité à Lubumbashi s'est vraiment empirée. On ne voit pas vraiment les retombées de l'opération Kibunu. C'est comme si on leur a donné l'aval d'une autre façon pour accentuer cet état de sécurité. Puisqu'on ne peut pas comprendre si réellement il y a des patrouilles. Mais comment expliquer qu'il y a des tueries, qu'il y a des viols, l'écrêtement des balles presque chaque jour. En tout cas, ça nous dépasse. Hein. C'est comme si ceux-là qui sont censés pour faire la sécurité, c'est eux-mêmes qui sont à la base de cette situation.
Il y a beaucoup de gens qui arrêtent les passants même à 19h, à 20h. Ils les ravient de téléphone. Ils prennent de l'argent. Des fois même des habits. Si vous avez un bon pantalon, une belle chemise, on vous ravit ça. Et en pleine nuit, ce sont les mêmes militaires qui entrent dans des maisons pour piller, pour violer et consorts. Alors nous nous posons la question, est-ce l'opération Kibunu était là pour amener la paix, la tranquillité, ou bien l'opération Kibunu a été instaurée ou bien initiée pour créer une psychose dans le cœur donc des Lushois?
Face aux préoccupations louchoises sur la sécurité, la réponse du maire de la ville, Jean-Oscar Sanguza Mutunda, est simple.
pas dramatiser les choses. Il y a la sécurité à Lubumbashi. La situation est calme. Vous voyez que tout le monde est en train d'évoquer ses occupations. Si nous ouvrons aujourd'hui la télévision, ce qui se passe dans le monde, ce n'est pas ce qui se passe à Lubumbashi. Là-bas, ce qui se passe ailleurs, c'est ça l'insécurité. Mais ici à Lubumbashi, il y a la sécurité, il y a le calme. Tout le monde va à ses occupations. J'ai fait le tour de la ville chaque jour, la nuit. Les gens sont là, en train de vivre. Ils sont là, en train de siroter l'air vert. Néanmoins, Lubumbashi n'est pas Lubumbashi il y a 10 ans. Aujourd'hui, Lubumbashi nage dans les 5 millions d'habitants. Lubumbashi est devenue une très grande ville, cosmopolite.
Qui dit vrai, alors que le Louchois dénonce l'opération Kibounou sur les bancs des accusés policiers et militaires, qui pour certains sont mal payés par le gouvernement. Explication de Monsieur Michel, membre du mouvement citoyen debout congolais.
Vous savez, vous ne pouvez pas donner l'arme à quelqu'un qui est mal payé. Vous savez, les minons militaires ici, il faut voir dans les conditions, ils sont logés. Il faut voir dans les conditions, leurs femmes mangent et leurs enfants. Il faut voir comment est-ce qu'ils m'aiment là où ils habitent. Donc tout ça sont des problèmes. Vous savez, quand vous avez donné l'arme à quelqu'un, vous lui donnez l'arme et vous ne le payez pas. Voilà les conséquences. Les conséquences, c'est quoi? Il faut commencer maintenant donc à ravir des forces au lieu qu'ils soient payés.
Ici, à Lubumbashi, les dangers permanents où les bouts de canon fait sa loi sans merci. Narval Mabila, Lubumbashi, VOA Afrique.
VOA Afrique à Lubumbashi sur 102.8 FM.
La Chine est devenue le premier investisseur en Afrique en termes d'argent injecté dans des projets sur le continent l'an dernier. C'est l'une des principales conclusions du rapport 2017 du Financial Times sur les investissements directs étrangers en Afrique. Les États-Unis restent néanmoins l'investisseur le plus prolifique en nombre de projets. Pour une analyse, Jacques Aristide, adjoint à Abidjan, en Côte d'Ivoire, l'économiste Prime Nioma.
On ne peut que se féliciter de cet engouement à la fois de la Chine et des États-Unis pour l'Afrique. Cela répond à un besoin économique évident, parce que ces investissements sont nécessaires pour booster la croissance économique en Afrique. Les États-Unis sont évidemment des investisseurs très importants. Les investissements directs étrangers américains se concentrent beaucoup plus sur les secteurs de pointe, sur les secteurs de projets pétroliers, alors que la Chine se concentre plutôt sur les infrastructures en général.
Alors pour des dirigeants africains, Pékin est un partenaire non interventionniste qui investit notamment dans de méga projets. Est-ce donc un partenariat gagnant-gagnant?
Absolument. Je pense que la Chine, qui a aujourd'hui les plus grandes réserves du monde, a besoin de diversifier ses investissements et l'Afrique ne peut être que gagnante. Les prix des matières premières vont également être boostés par la demande chinoise. La Chine investit essentiellement dans des projets d'infrastructure hydroélectrique, les routes, les barrages, etc. Ce dont l'Afrique a besoin absolument pour l'instant. Pour ce qui concerne, par exemple, les investissements en infrastructure, on peut donner l'exemple de l'Éthiopie où la Chine a financé un grand projet de réhabilitation de l'infrastructure des rails entre Addis Abeba et Djibouti, ce qui est une excellente chose pour cette région du monde.
Mais certains continuent de se poser cette question. Que cherche la Chine en investissant autant en Afrique? Que répondez-vous?
Mais la Chine cherche en Afrique ce que les pays occidentaux ont toujours cherché pendant des siècles. Il s'agit des matières premières, les débouchés pour les produits manufacturés et les services divers, les communications, etc. Compte tenu des immenses besoins des pays africains pour les investissements, je pense qu'il y a de la place. Il y a largement de la place pour les États-Unis, la Chine, ainsi que d'autres pays par ailleurs. L'Afrique ne peut être gagnante s'il y a des projets qui sont financés à travers les IDE, les investissements étrangers.
C'était l'économiste Prime Nyamoya, joint à Abidjan, en Côte d'Ivoire.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington, une fenêtre sur le monde.
Pour terminer, cap sur le Texas pour la suite de notre série sur les Africains qui tentent de rejoindre les États-Unis en passant par la frontière mexicaine. Arrivés sur le continent par avion, leur long périple commence au Brésil, se poursuit par une traversée de plusieurs pays pour atteindre le Mexique. Une fois franchi la frontière des États-Unis, commence le processus de demande d'asile. Pour nous en parler, Morgane Guiriec a joint Arzouman Compaoré, notre envoyé spécial sur place.
Une fois qu'ils sont sur le territoire américain, les autorités d'immigration les saisissent. Ils demandent en fait leur demande d'asile. Il y a toute une procédure qui s'enclenche. La première, c'est que il va falloir déterminer qui va rester dans un centre de détention et qui va être relâché sur parole. Ces centres de détention pour immigrants sont comme des prisons. Et lorsqu'ils n'ont pas suffisamment de cellules, ils les transfèrent dans des prisons où ils cohabitent avec d'autres criminels. Et très souvent, ils se retrouvent associés et considérés comme des criminels. Et ils vivent certaines expériences qui les traumatisent à vie.
D'autant plus que certains viennent avec leur famille.
Les femmes et les enfants en bas âge ne peuvent pas rester dans des prisons. C'est le casse-tête. Cette famille camerounaise, la femme était enceinte avec leur petite fille de 4 ans. Et les autorités sur place ont clairement dit, soit on vous remet tous en déportation, soit on va libérer la femme et l'enfant et toi tu vas rester en prison. Bien évidemment, après avoir fait toute cette distance et tous ces sacrifices, il a accepté, il a dit ok, gardez-moi en prison et laissez ma famille partir. C'est des moments très difficiles, la séparation et la déception aussi. Il y a une certaine force, une certaine foi aussi que ces gens ont, qui est assez inébranlable. Ils sont vraiment prêts à tout. Si vous rencontrez le juge et que votre cas n'est pas accepté dans la première mesure, très souvent, vous vous retrouvez à voyager de centre de détention en centre de détention.
Mais d'autres sont plus chanceux et se retrouvent dans des centres. Comment ça se passe dans ces centres?
Ils sont passés devant le juge et soit leur cas a été approuvé, ils ont reçu une réponse favorable pour leur demande d'asile, ce qui leur permet de déclencher, en tout cas de continuer la procédure. D'autres sont plus ou moins en sursis et souvent, ces personnes qui sont en sursis sont relâchées dans des centres d'accueil munis de bracelets. Ces bracelets, en fait, sont le gage de liberté conditionnelle. Ils sont vraiment obligés de rester dans ces centres d'accueil-là, régulièrement, chaque semaine, aller rencontrer un officier qui va pouvoir valider ou attester de leur présence, obéissance vraiment aux différentes conditions qui ont été déterminées par le juge.
Et dans ces centres, il n'y a pas que des Africains.
Il y a beaucoup de Latinos, du Honduras, du Mexique. Et ces gens, ils parlent différentes langues, avec différentes cultures, avec différentes inclinations religieuses. Ils doivent vraiment cohabiter.
Ils se mettent ensemble ou est-ce qu'ils sont complètement éparpillés, ces Africains? Est-ce qu'il y a une mini-communauté africaine au sein de ces centres?
Ils vont se rassembler par groupe de personnes qui parlent la même langue, d'Afrique de l'Est ou d'Afrique de l'Ouest. Certaines habitudes culinaires, ils vont préparer ensemble, ils vont manger ensemble.
C'était Arzouman Compaoré, notre envoyé spécial au Texas.
Hello, hello. I'm your English host. Je suis votre présentatrice pour l'anglais, Michelle Joseph, ici au micro. Voulez-vous mieux parler l'anglais? C'est fait. Retrouvez-moi tous les soirs à partir de 21h, temps universel, sur VOA Afrique. Et sur notre site internet à www.voaafrique.com, cliquez sur « Apprenez l'anglais » pour retrouver les leçons de tous les jours. Et les week-ends sur ondes courtes, le samedi et le dimanche à 20h TU. Pour mieux parler l'anglais, to speak better English, ne ratez pas English USA sur VOA Afrique.
Salut les amis, Roger Montou ici sur VOA Afrique. Vous me suivez tous les soirs à 20h temps universel dans l'émission RM Show. Au menu de la bonne musique, des interviews avec des personnalités et des artistes. RM Show donne aussi la parole aux auditeurs de la VOA Afrique. Suivez-nous en direct sur Facebook Live VOA Afrique. Participez en appelant au 001-202-205-2633. C'est au 001-202-205-2633. Nous sommes aussi sur Twitter, Instagram et Facebook. Tapez juste hashtag RM Show. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace out.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Sidoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.